Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission. La chanteuse Jeanne Chéral sera avec nous pour son album L'An 40, à la fois très sage, mais limite classé X, pas les concerts. Ils seront sages. Et puis, dans les indispensables, enfin j'espère, dans les indispensables, des BD dont une histoire inspirée du dernier lauréat du prix Renaudot, Sylvain Tesson, et un jeu vidéo avec Léa Seydoux. Bonjour Alain Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture, votre journal de la culture qui démarre avec une nouvelle affaire de plagiat dans l'humour.
Et oui, une nouvelle victime de l'internaute anonyme Copy Comic. Depuis 2 ans, il fait le parallèle, vidéo à l'appui, entre des humoristes français et des humoristes américains. Alors après avoir dénoncé Gad Elmaleh, Thomas Sisley ou encore Jamel Debbouze, le nouveau stand-upper accusé de plagiat, c'est lui.
Vous pouvez toujours m'attaquer, le Phoenix ne meurt pas, mais il renaît de ses cendres. Lors des cons va bientôt sonner, l'addition va être salée. Franklin, impossible de me descendre. Oh.
Voilà, Thomas Ngijol. Alors la vidéo publiée de Copy Comic vise à prouver que le comédien français se serait inspiré de Chris Rock, Eddie Murphy ou encore Dave Chappelle. Thomas Ngijol a tout de suite répondu sur son compte Instagram en affirmant « Bon, vu qu'on est dans l'ère du buzz, on peut dire qu'il y a clash. Pour moi, à la base, c'est entre deux hommes en face à face, pas entre un homme et un compte Twitter, mais je vais me plier à tes règles, Copy Caca. Tenter de réduire mon travail à ton montage pourri, mauvaise idée, tes méthodes de délation sont tellement vieille France. » Il rajoute « Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre ivrogne viral qui passe son temps à crier au complot au bar Twitter. Sauf que là, tu as gueulé à l'oreille du mauvais client. » Thomas Ngijol explique que l'inspiration, lui, il appelle ça de la culture. Il a répondu aux 12 extraits décortiqués de la vidéo. Alors, qui sera la prochaine victime de Copy Comic et surtout, qui est-il? Les questions restent en suspens.
Et on attend peut-être la réponse de Copy Comic. Tout autre chose, Hélène, une rencontre avec le pape François et une comédie musicale à succès organisé le 27 novembre.
C'est la troupe du spectacle musical Bernadette, créée à Lourdes, qui aura donc la chance de rencontrer le pape François au Vatican la semaine prochaine. Ce spectacle raconte l'histoire de Bernadette Soubirou, appelée Bernadette de Lourdes. 6 chanteurs sont sur scène. Lors de leur visite au Vatican, ils vont interpréter une chanson a cappella de leur spectacle. Ils seront accompagnés de leur producteur à l'origine de ce projet, Roberto Cirlo, qui a déclaré « Au-delà de la rencontre elle-même avec le Saint-Père, qui sera un moment exceptionnel, il sera un soutien évidemment primordial pour nous qui allons lancer une version et une tournée italienne du spectacle et travaillons aussi avec une dizaine d'autres territoires, dont le Brésil, l'Argentine, le Québec. Alors la rencontre a été rendue possible par 2 personnes. Le nouvel évêque du sanctuaire de Lourdes, Monseigneur Hérouard, qui a vanté le spectacle au pape lors d'un rendez-vous. Et le père Nicolas, qui anime à Lourdes le Chapelet, une émission télévisée très prisée des croyants italiens. La comédie musicale a déjà été vue par plus de 70 000 spectateurs.
Cinéma maintenant avec une nouvelle version du film de Quentin Tarantino qui sort aujourd'hui.
Une nouvelle version de Once Upon a Time in Hollywood avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, sortie le 14 août dernier. Alors, cette nouvelle version est sortie aux États-Unis le 25 octobre avec 10 minutes en plus, soit 2 scènes et 2 scènes post-génériques. C'est important quand même.
Non, je sais pas pourquoi je souris, parce qu'on avait parlé ici et Angèle Châtelier disait que c'était trop long. Donc, s'il rajoute 10 minutes, elle va pas être contente.
La question était de savoir si la France allait pouvoir se régaler de nouveau. Eh bien, oui. Et dès aujourd'hui, le film, dans sa nouvelle version, est disponible dans quelques salles. Seuls quelques cinémas sont concernés, surtout à Paris. Sinon, il faudra se rendre du côté de Chalon-sur-Saône ou à l'Aume, au cinéma Kinépolis.
C'était Margot Barlon, en fait, qui trouvait que c'était trop long. Angèle Châtelier trouvait que c'était très bien comme ça. Une partition signée de la main de Mozart, vendue aux enchères.
Thierry Géfretin nous en parlait l'autre jour, une partition originale composée par Mozart à l'âge de 16 ans. Alors, elle a été vendue à Paris.
Ah, vous avez le prix ?
À plus de 372 500 euros.
Mon Dieu.
Soit le double de son estimation.
Il disait 100 ou 150 000 euros.
Et
372 000. Les plus durs à payer, c'est les 500 derniers.
Mais on se dit, ah, vous êtes sûr ouais.
Et on continue avec une grande annonce.
On l'a trouvé plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Il vient de l'annoncer, Pierre Perret a décidé de faire les 10 et 11 octobre 2020 ses adieux provisoires pour commencer à la salle Playel à Paris avant de partir en tournée dans toute la France.
Et puis on va parler de géopolitique avec le titre Bella Ciao qui devient symbole de protestation contre le régime en Irak.
Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Pour apporter leur soutien aux manifestants qui luttent depuis un mois dans les rues de la ville irakienne. Des jeunes Irakiens de Mossoul ont décidé de se déguiser en braqueurs avec les masques de la série La Casa des Papel. Vous savez, les masques de Dali, en revisitant le chant Bella Ciao, Bella Ciao qui est la musique de la série. Alors ils ont transformé Bella Ciao en Blaya Shara qui signifie sans issue. Une chanson donc devenue véritable symbole de la révolution, de l'appel aussi à la manifestation contre le régime, de lutte contre les différentes pressions sociales et politiques depuis le 1er octobre, premier jour de ce mouvement de contestation d'ampleur. Vraiment, au moins 330 personnes sont mortes dans les violences suite aux différentes manifestations. Alors un jeune chanteur irakien s'est confié à l'AFP en affirmant « On a acheté des vêtements d'occasion, on a peint nous-mêmes nos masques et on a tourné dans la rue ou dans nos maisons. » La vidéo a connu un grand succès en Irak. Seul moyen aujourd'hui pour apporter leur soutien aux manifestants. Ils veulent maintenant défiler dans les rues de Bagdad.
Et on termine rapidement par un documentaire diffusé ce soir sur Canal Plus Family.
Un documentaire inédit qui s'intitule « De rage et de danse » réalisé par Stéphane Carrel. Alors c'est une classe de 18 élèves d'un établissement issu du réseau d'éducation prioritaire qui ne connaissaient pas du tout l'univers de l'opéra. Ils ont pu pendant 10 mois suivre leur cursus français, mathématiques, anglais et en plus 8 heures de cours de danse par semaine pour terminer par un spectacle sur la scène de l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille devant leur famille et les professionnels de l'opéra. Vous pourrez suivre mois après mois et leur quotidien face à cette fabuleuse aventure donc de rage et de danse.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est ravis d'accueillir Jeanne Chéral.
Ravi, le mot est fait. Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
Vous êtes auteur, chanteuse, vous êtes compositeur, compositrice, comment vous dites ?
Compositrice, c'est bien.
Compositrice, vous avez eu 40 ans l'an dernier. J'en parlerai pas si c'était pas le titre de votre album. Vous sortez ce nouvel album après 4 ans de silence. Et je donne votre âge car le disque, le CD, l'album s'appelle L'An 40. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce thème pour un disque ?
En fait, il se trouve que j'ai écrit ce disque l'année de mes 40 ans.
Ouais.
Et c'était pas du tout prémédité hein, de parler de ça.
Enfin, c'était le sens de ma question.
Un sujet central. Mais j'ai bien aimé avoir cet âge. J'ai
trouvé
que c'était
mais
assez
quand même,
épanouissant.
C'est quand même le sujet central. Parce que sur les notes de pochette, vous écrivez « Je dédie cet album à toutes les femmes de 40 ans. » Et j'ai pensé à toutes celles qui avaient 39 et 41 et qui n'avaient rien pour elles.
Oh, les pauvres.
Non, mais
ouais,
pourquoi
les
vous avez fait ça ? Mais pourquoi il se passe quoi à 40 ans ?
Ben, je sais pas. Des fois, on a peur de passer à la dizaine supérieure. Enfin, c'est un peu, voilà, on passe à 30, 40, 50. C'est un peu une année de bilan. Et je sais pas, je trouvais que c'était rond, ça sonnait bien, l'an 40. J'ai bien aimé avoir cet âge-là.
La première chose qui a frappé tous les journalistes, et moi avec, sur la pochette de l'album, il y a une photo de vous, le bras un peu relevé, avec les aisselles pas épilées. Qu'est-ce que ça dit de vous, cette image ?
Oh bah c'est une image de, c'est une image très nature et une image de liberté, je trouve. C'était quand j'ai vu cette photo, tout de suite je me suis dit bah voilà, c'est ça la pochette de mon disque. J'ai eu l'impression que la pochette était
Il y a deux infos dans la photo. Il y a que ce soit la pochette du disque, mais il y a le fait que vous ne vous épilez pas sous les aisselles.
Bon, j'étais comme ça ce jour-là. Effectivement, c'est pas, je suis pas forcément très attentive à ça, à une épilation nickel tous les jours.
Je veux dire le sens de ma question. Vous parlez de féminité assumée. Et ce qui frappe quand on voit toutes les pubs pour les rasoirs, les crèmes dépilatoires pour femmes, c'est qu'elles mettent en avant la féminité. Et ils disent la féminité, c'est être lisse. Et vous dites la féminité, c'est être pas lisse. J'aimerais bien vous entendre sur ce sujet.
J'ai l'impression que la féminité, c'est aussi, ça peut aussi être une certaine désinvolture et quelque chose de pas nickel, justement. La beauté d'une femme, c'est pas son maquillage, c'est pas son épilation, je trouve. C'est plus intérieur et c'est plus profond que ça. J'avais envie de montrer l'image d'une femme à cet âge-là, à 40 ans, qui sort un peu des dictates, quoi, des ordres qu'on lui donne d'être impeccable tout le temps. Moi, j'ai pas envie d'être impeccable tout le temps.
Comment vous avez travaillé ? Vous l'avez dit, vous êtes partie avec plus ou moins une idée globale, ou c'était une somme de chansons et vous avez tout réuni là-dedans ?
En fait, je me suis assez disciplinée toute l'année de mes 40 ans pour partir. Je suis partie une semaine par mois de Paris. Je vis à Paris, ouais. Et j'ai vraiment besoin d'isolement, enfin de solitude volontaire et choisie. Hein, quand j'écris, j'ai vraiment besoin de ça. Et je suis partie dans des endroits hyper retirés, à La Réunion, dans le sud, en Auvergne, dans des petites cases, des petites cabanes, ouais. pour travailler, pour composer. Et à chaque fois, je suis rentrée avec une chanson qui me plaisait.
Ouais, et un bon bilan carbone.
Pour La Réunion, c'est pas génial, c'est pas très éco-responsable.
Alors, c'est un album très personnel, très intime même. Vous parlez par exemple de la naissance de votre enfant, il s'appelle comment ?
Oh, bah, j'ai voulu préserver son anonymat justement, lui donnant un prénom.
Il s'appelle pas César.
Il s'appelle pas César parce qu'il est né par césarienne et j'avais envie d'en parler.
Ça allait être ma question, j'avais jamais lu une chanson là-dessus et c'est très tendre et je me suis dit la césarienne c'est un phénomène absolument, je vais pas dire naturel,
courant,
mais très très courant.
Ouais,
c'est très et c'est
courant.
La première chanson à ma connaissance, comment vous vous êtes dit tiens je vais écrire de la poésie là-dessus ?
Bah, c'est pas quelque chose que je me suis dit, mais c'est vrai que la naissance d'un enfant et une naissance par ce biais-là, ouais. Ça marque. Enfin, ça marque dans tous les sens du terme. Quoi. Effectivement, ouais. Ça marque, ça laisse une cicatrice. Et c'est venu comme ça. J'ai eu envie d'en parler d'une manière tendre et intime. Et après coup, je me suis dit, bah, ça va peut-être parler à des femmes qui ont traversé ça. Quoi. Et ça m'a aidée, je pense, moi personnellement, à faire la paix avec cet événement-là, parce qu'une césarienne, c'est pas forcément quelque chose à laquelle on se prépare, on s'attend.
Il y a une autre chanson très frappante, c'est un chiffre, mais vous l'écrivez en toutes lettres, 69. Ça ne parle pas du département du Rhône, ça parle bien de 69.
Ça parle de 69.
Quelques mesures. Chanter « Mon jardin salit, vient tremper tes lèvres », il faut oser chanter ça. Ça fait question dans votre esprit ?
Bah, bizarrement, non. Enfin, c'est pas un sujet que j'aborde à la terrasse d'un café. Hein, mais
j'imagine.
Dans une chanson, je me donne pas vraiment de limites, même pas du tout.
Mais vous avez dit, la mettre sur le disque, je vais pas la mettre sur le disque.
Ah non, je me suis pas posé la question. Enfin, à partir du moment, enfin, disons que moi, mes limites, elles sont pas dans le fond, elles sont plutôt dans la forme. Si il y a deux accords qui s'enchaînent mal, si je trouve qu'une phrase est mal ficelée, c'est ça mon tabou. C'est plus ça que vraiment qu'un sujet. Quoi.
D'un mot, vous aviez prévenu votre chérie qu'elle allait avoir cette chanson ?
Non.
La chanson s'appelle 69, elle est sur l'album de Jeanne Chéral, il devrait l'écouter.
Jeanne Chéral qui est notre invitée, après le bilan de vos 40 ans, eh bien vous allez entendre le bilan de votre vie, en tout cas en partie, grâce à Hélène Manarino qui a mené son enquête sur vous. C'est votre portrait inattendu, Jeanne Chéral, qu'on découvre dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est Philippe du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Jeanne Chéral, je vous laisse boire et je vous présente Hélène Manarino.
Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
C'est l'heure de votre portrait inattendu. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas de vous. Presque. Vous avez juste là, pendant quelques minutes, à gratter votre herbe, ce qui signifie rien faire.
Waouh, c'est quoi cette tête, Jeanne Chéral ?
Je trouve ça fou, cette expression que vous me sortez là, ça m'émeut.
Pourquoi
est-ce que vous avez trouvé ça ?
Pourquoi ça vous émeut ?
Parce que c'est une expression de mon papa.
Ce qui signifie ne rien faire. Et que vous aimez beaucoup cette
expression.
Mais comment
vous savez ?
Alors,
elle sait plein de choses.
Je sais beaucoup de
choses.
Posez
pas cette question, parce que on en a encore pour une heure.
Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque ce matin, vous allez nous apprendre vos expressions, Jeanne Chéral. Oui, vous adorez les vieux mots, c'est votre langage courant. Le patois, finalement, aussi de votre village. D'ailleurs, Jeanne, en patois, c'est Johan. C'était votre surnom. Petite ou alors souillon, cela venait de votre maman. Alors,
c'est vrai ?
De ma maman, je crois pas. Non, plutôt d'une institutrice.
C'est pas vrai.
Mal intentionné.
Pourquoi vous appelez Souillon ?
Bah, il devait y avoir des raisons. Hein.
Est-ce que. Alors, tout le monde est prêt pour un petit quiz ? Voici le langage, Jeanne Chéral. Crouyer, ce qui signifie
Fermer à clé.
Voilà, ça vous le dites. Écamouir pour écraser aussi. Alors, ramasse-bourrier.
Ramasse-bourrier, c'est une petite pelle à poussière.
Une petite pelle à poussière. Donc voilà, c'est le langage, Jeanne Chéral. Alors, évidemment, un langage qui vient de votre enfance. Et c'est vrai que les expressions ont toujours été très présentes et c'est assez héréditaire. Comme ce jour, lors de l'enterrement de votre grand-père, une veillée avait été organisée. Tout le monde était présent, tout le monde se recueillait. Et votre grand-mère a décidé de crier devant toute l'assemblée. Il y en a qui veulent du jambonneau.
Alors, ça, c'était ma grand-tante. Ma grand-mère
contexte,
aurait jamais fait
votre
ça.
Grand-tante, hors contexte, certes, mais depuis, cette phrase fait partie de votre quotidien. Vous la répétez tout le temps, votre fils aussi s'y met. Alors, Jeanne Chéral...
Non mais j'hallucine un peu là quand même. Non,
mais c'est moi vrai. Aussi j'hallucine. Vous, c'est qu'aujourd'hui, mais moi c'est depuis la rentrée, depuis le 26 août, j'hallucine.
Je suis sur écoute ou
à
quoi
chaque fois. Ouais.
Pratiquement, je vous en fait, voilà, c'est ça.
Hélène.
Jeanne Chéral, expressionniste, oui, mais pas seulement. Vous êtes aussi très branchée tuyauterie.
Ah oui,
vous adorez déboucher les éviers bouchés.
Non.
Voilà, par exemple.
C'est ma passion.
Débloquer l'eau, oui, rien de surprenant d'ailleurs que votre boisson fétiche soit l'eau chaude, mais que de l'eau chaude. Ce que vous mangez tout le temps,
c'est rock.
Ce que vous mangez tout le temps, j'arrive là, des patates à l'eau. Voilà. Alors, comme on dit, il faut...
Vous avez interviewé qui là ?
Non, je ne posais pas cette question.
Comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Mmh. Finalement, la simplicité avant tout. Pas de télévision, pas de série, lire des livres sur une tablette, évidemment. En revanche, un homme, votre idole, monsieur Alain Delon. Il y a d'ailleurs chez vous des photos d'Alain Delon un peu partout. Alors, je ne sais pas si vous l'imitez. Alors, si je vous pose cette question, c'est que, en plus de tous ces talents, Jeanne Chéral, vous êtes une très très bonne imitatrice, notamment de lui. Michel Jonas.
Allez-y.
Je ne vais pas imiter Michel Jonas. Je ne peux pas y aller comme ça. C'est marrant, j'ai chanté avec lui il n'y a pas très très longtemps. J'espère qu'il ne va pas m'entendre et m'en vouloir.
Mais c'est gentil, une imitation.
Ouais. Mais je l'adore. Vraiment, je l'adore.
Alors, Michel Jonas, oui, que vous aimez beaucoup. Mais côté musique, il y en a une qui vous a toujours accompagné lors de vos trajets en voiture. Quand vous étiez petite, au bord d'une Simca. Simcami, c'est ça.
Simcami.
Le Loir-et-Cher, évidemment, la chanson de votre enfance. Alors, Jeanne Chéral, votre enfance, finalement, tout le monde avait vu juste. Une bonne sœur vous a dit, lorsque vous étiez en CM1, Jeanne a trop d'imagination, alors ce n'est jamais trop. Mais vous, vous avez surtout dit, à l'âge de 4 ans, à votre maman, plus tard, je veux être artiste. Pas trop d'imagination, donc, vous aviez juste tout compris.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Dis donc, vous étiez sciée, hein, Jeanne.
Oui, j'en ai les mains moites.
Et vous aviez les larmes aux yeux tout à l'heure.
Quelle intrusion! Non, mais bravo, hein, bravo pour ouais. Tout ce que vous avez
quoi
trouvé.
Vous allez pouvoir vous remettre, reprenez un peu d'eau chaude.
Dans un instant, on découvre nos indispensables du jour avec notre invitée Jeanne Chéral sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
On découvre nos indispensables du jour avec Clément Le Saffre et Mathieu Charrier dans un instant. Philippe, avec notre invitée Jeanne Chéral qui nous parle de son nouvel album L'An 40. Elle sera également sur la scène des Folies Bergères le 3 décembre.
Et grosse tournée dans toute la France. Il y a sur le disque une chanson en hommage à Jacques Higelin. Vous racontez, si j'ai bien compris, la cérémonie d'adieu. Vous l'avez bien connue, Jacques Higelin. Quel souvenir vous en gardez ?
Oh bah, le souvenir de la liberté faite homme. C'était pour moi quelqu'un de hyper inspiré, débridé, généreux. Et ça a été vachement marquant, cette cérémonie qui était organisée par ses enfants, ses trois enfants et sa femme.
Ouais.
Et c'est un moment, j'ai pas pu faire autrement que d'en parler dans une chanson. Quoi. C'est venu quelques jours après.
Je voudrais parler du son de cet album. On va entendre tout à l'heure en entier le titre « Le feu aux joues ». Mais quand même, vous avez mis le paquet sur les batteurs. Alors là, on a fait une boucle pour qu'on en profite. Mais vous avez joué avec vos deux batteurs préférés. Déjà, je ne savais pas qu'on avait des batteurs préférés.
Bah,
dites qui ils sont.
Alors bah, là, on entend Matt Chamberlain, qui est un batteur assez, qui est virtuose en fait. Il est virtuose, il est hyper inspiré, il est incroyable. Et l'autre batteur, c'est Jim Keltner. C'est un monsieur qui a presque 80 ans.
Et qui a joué avec Neil Young et John Lennon, si je suis bien informé. Et le premier Chamberlain, ouais. Il avait joué avec Tori Amos et Pearl Jam. Ouais. Comment vous avez fait pour les avoir? Il faut les payer très cher ou il faut les convaincre de venir jouer sur le disque de la petite française qui a 40 ans?
Bon, je crois que c'est un peu les deux. Mais bon, en fait, pour moi, c'est extraordinaire. Mais pour eux, c'est une journée de boulot. Donc, ça s'est fait. Pour moi, c'était un fantasme. Je me disais, oh là là, ce serait génial. Et puis, ça s'est fait assez simplement. Et à partir du moment où on se met dans la musique, en fait, on oublie un petit peu le parcours de chacun, le background de chacun. Donc,
le disque, parfois, il est très intimiste. Juste vous, votre piano, même pas d'écho sur la voix. Et parfois, vous êtes allé chercher des chorales gospel à Los Angeles.
Ouais.
Là, ça sonne vraiment grandiose comme une cathédrale. Elle comprenait ce qu'elle chantait ou pas du tout?
Non, personne. Il y avait 8 chanteurs, enfin 4 hommes, 4 femmes, et personne n'était francophone. Mais du coup, c'est vrai que je trouvais ça assez charmant, en fait, cet accent sur Racine d'Or, par exemple. Ouais. Racine d'Or! Et c'est, à chaque fois, j'ai essayé avec mon anglais très mauvais de donner un sens un petit peu global de chaque chanson que je leur donnais à chanter. Mais c'est une super expérience.
Vous le connaissez, lui? Mathieu Charrier, pardon pour l'accent. Mathieu Charrier, on va parler avec vous de bande dessinée et on va plonger dans les geôles américaines et dans l'univers de Jack London.
Oui, dont est librement adapté cette BD. Ça s'appelle Le Vagabond des Étoiles. C'est signé Riff Rebs et c'est l'histoire donc de cet homme qui a commis un crime et qui croupit au fond d'une geôle. Il est souvent puni pour mauvais comportement et se retrouve donc enlacé dans une camisole de force que les gardiens prennent, vous savez, un malin plaisir à serrer le plus fort possible.
Pour survivre,
il doit donc s'attarder sur des détails, sur des mouches qu'il nomme dans sa cellule, qu'il tente de dresser aussi. Et puis surtout, et c'est la beauté de cette bande dessinée, son esprit, lui, va permettre de s'évader. Écoutez Riff Rebs, l'auteur.
Le personnage a des voyages extracorporels. Je veux dire, il arrive à anesthésier son corps, on va dire, pour supporter la douleur. Et du coup, il n'y a plus que l'esprit qui fonctionne. Et du coup, l'esprit ne sent plus les murs. Donc, il se retrouve jeune garçon, ermite, femme, une espèce de chevalier de l'époque Louis XIII. Et donc, là, tout d'un coup, on a de l'espace, on a du souffle. Le western, c'est les grands paysages, les chariots. Et tout ça est vécu dans un endroit où il ne se passe rien que des mouches qui vous tournent autour, quoi. Et donc, voilà, graphiquement, c'était forcément excitant pour un dessinateur qui peut, sur un même livre, presque toucher à tous les genres, quoi.
Et c'est le plaisir que l'on a, hein, nous aussi, en tant que lecteur, au fur et à mesure que l'on tourne les pages, et qu'il y a donc cette critique de l'univers carcéral. On est enfermé physiquement avec notre personnage, et en même temps, on rêve avec lui. On passe du western au péplum, au roman de KPDP. Le tome 1 de ce Vagabond des Étoiles, puisqu'il y aura un tome 2, vient donc de sortir chez Soleil, collection Noctambule.
Et puis, d'un genre à l'autre, vous nous parlez maintenant d'une BD de science-fiction.
Oui, d'un récit d'anticipation. On est en 2151, et après toute une série d'ouragans, d'épidémies, de guerres, la population mondiale a été divisée par 10. Mais les humains se sont repris en main et ont mis en place ce qu'ils appellent le contrat. C'est-à-dire qu'il y a désormais 7 villes dans le monde et pas une de plus. Chacune d'entre elles doit être autosuffisante et en dehors de ces zones, la nature reprend ses droits. C'est un peu l'inverse d'aujourd'hui finalement. En parallèle, une mission d'exploration spatiale se prépare, menée par une cosmonaute qui s'appelle Simon. C'est notre héroïne que l'on va suivre tout au long du livre avec son fils, Yuri. Parce qu'avant de décoller pour ce voyage qu'elle sait sans retour, elle veut lui faire visiter toutes ces villes. Soon est donc un récit qui mêle science, écologie, exploration spatiale, transmission aussi, explique Thomas Cadden et Benjamin dans les auteurs.
L'idée, c'est d'essayer de réfléchir à une vision du futur qui ne soit pas uniquement les fléaux qui nous tombent dessus, la catastrophe, la destruction, mais de voir en quoi des circonstances terribles pourraient peut-être permettre aux êtres humains d'arrêter d'être cette espèce invasive qui détruit tout ce où elle va, quoi.
Effectivement, l'un des principes de la BD, c'est de ne pas être dans Mad Max, quoi, d'être dans vraiment quelque chose de, finalement, un univers dans lequel les choses se passent plutôt bien. Et la conquête spatiale, c'est l'expression de pourquoi on continue à faire ça alors que ça incarne finalement assez bien ce qui nous a emmenés au désastre? Et en même temps, si on continue pas à faire ça, qu'est-ce qui reste de nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit s'interdire d'être curieux? Est-ce qu'on doit s'interdire d'être aventurier?
Voilà, pour le fond de l'histoire, moi j'aime aussi beaucoup le dessin très graphique avec un panel de couleurs restreint, plutôt froide, pour donner une ambiance futuriste. Et puis chaque ville a sa couleur, son identité visuelle. C'est une BD qui fait un peu plus de 200 pages, donc ça s'appelle Soon, c'est passionnant et c'est chez Dargaud.
Et puis Mathieu, vous avez un dernier conseil de lecture.
Oui, une BD adaptée d'un récit de Sylvain Tesson. On en parle beaucoup de cet auteur en ce moment, il vient de remporter le prix Renaudot avec La Panthère des Neiges. Mais il y a un autre de ses livres qui vient d'être adapté en bande dessinée. Ça s'appelle Dans les forêts de Sibérie, vous connaissez peut-être, qu'il avait révélé il y a quelques années. Il raconte son séjour, vous savez, de 6 mois dans une cabane perdue au bord du lac Baïkal, à plusieurs heures de marche d'âmes qui vivent, et c'est son voyage intérieur qu'il nous narre, marqué évidemment par la solitude, la lecture, la pêche, quelques rencontres avec des ours. Mmh. Histoire magnifique.
La vodka. Ouais, j'allais dire, le Zapoy.
Forcément, tous les deux.
Mais bien sûr. Non, mais on l'a lu. Vous l'avez lu,
bien sûr. Ouais.
Bah alors, allez lire la BD parce que c'est magnifiquement dessiné par Virgile Dureuil. C'est donc chez Casterman dans les forêts de Sibérie.
Et la question que je me posais pendant que vous parliez, comment a-t-il dessiné l'ivresse?
Ah, ben vous savez, ça c'est toujours le trait qui part un peu dans des. dans des exaltations incontrôlées. C'est très joli les moments où on dessine l'ivresse.
Vous êtes fan de BD, pardon, Jeanne Chéral?
J'adore ça, ouais. Là, les trois dont vous avez parlé, je les connais pas encore, mais j'adore la BD.
La dernière, vous avez un conseil, lecture, BD? Vous avez quoi? Vous avez toute la pause pour réfléchir. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Jeanne Chéral est notre invitée ce matin. Philippe, on revient à son actualité dans un instant. Avant, on va parler jeux vidéo avec Clément Le Saffre.
Oui, qu'on retrouve, puisque vous étiez là tout à l'heure pour nous parler de Stadia. Mais là, re-bonjour Clément.
Re-bonjour.
Vous allez parler de la PS4. D'un jeu sur PS4, un jeu vidéo atypique.
Oui, absolument. Si je vous dis Léa Seydoux, Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Guillermo del Toro, vous pensez forcément à...
un film.
Eh ben oui,
et un gros film.
Vous vous auriez tort, puisqu'il s'agit d'un jeu, c'est le casting assez dingue du jeu vidéo Death Stranding.
Clément,
Stranding.
Je m'en doutais un peu, vous parlez de jeu vidéo, je me doutais un tout petit peu.
Voilà, mais on joue... Moi, je vous le dis que c'est un jeu vidéo et c'est donc assez incroyable d'avoir autant de stars dans un casting. C'est la première fois qu'il y en a autant. Elles ont prêté leur trait pour ce jeu, donc Death Stranding, très attendu.
Nous voudrions que vous partiez vers l'ouest pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Elle va bien. L'extinction est suspendue pour l'instant.
Je t'attendrai sur la grève.
C'est dingue, on dirait pas du tout un jeu vidéo, on dirait une bande-annonce de film. Alors, c'est quoi le synopsis? Ça raconte quoi?
Je pense que la bande-annonce n'a pas dû vous aider, c'est assez cryptique. Alors, l'action prend place dans un futur assez lointain, il n'y a pas de date. C'est un phénomène surnaturel, le Death Stranding, qui a décimé la quasi-totalité de la population mondiale aux États-Unis, ou plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. Les quelques survivants tentent de s'organiser. Parmi eux, il y a Sam Porter Bridges, un taiseux brut de décoffrage. Il est incarné par Norman Reedus, c'est l'acteur qui jouait Daryl dans The Walking Dead, pour ceux qui ont regardé la série. Il est chargé, Daryl c'est dans Walking Dead, Sam dans Death Stranding est donc chargé d'une mission parcourir le pays d'est en ouest pour livrer des marchandises aux survivants et les connecter au réseau. Pour simplifier, c'est un peu un job entre le livreur Colissimo et le technicien fibre d'orange.
C'est bien comme métier. C'est autre chose que Mario et Sonic. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce jeu?
Eh bien on marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'essentiel du jeu consiste à arpenter les terres sauvages abandonnées pour aller d'une ville à l'autre, relier les gens. En route, il va falloir affronter les pillards qui sont à l'affût du moindre livreur et surtout les échoués, des spectres terrifiants qui hantent le monde. Le tout avec des dizaines de kilos de marchandises sur le dos à livrer en bon état. Si vous les faites tomber, la mission s'arrête. Alors c'est pas évident du tout. Ce sont donc ces terres hostiles que Sam Porter doit parcourir le plus souvent à pied sur une bande-son qui est très envoûtante.
J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vous ont plu dans ce jeu. Allez-y, qu'est-ce qui vous a plu?
Alors déjà, visuellement, c'est un feu d'artifice d'idées complètement folles. Une plage où se croisent les morts et les vivants, un fœtus dans un bocal qui sert de radar à spectres, des pluies qui vieillissent tout ce qu'elles touchent. L'univers de Death Stranding est vraiment très original, il n'a rien à envier aux plus grands films de science-fiction. Et puis c'est un jeu qui est politique, c'est assez rare. Comme souvent, la science-fiction, elle sert de miroir, vous savez, à notre époque d'aujourd'hui. Death Stranding, c'est l'allégorie d'un monde qui est éclaté, qui est ubérisé, si on voulait reprendre la novlangue d'aujourd'hui. Un monde où les communautés se réfugient derrière des murs, où plus personne ne crée de lien avec son voisin. Et ça, nous dit Death Stranding, c'est un monde qui court à sa perte. Et tout l'enjeu pour nous, joueurs, ça va être justement de remettre l'humain au cœur d'un monde qui a été brisé.
Les gens qui nous écoutent se disent que c'est un petit peu spécial quand même.
Oui, et ils auraient tout à fait raison. C'est vraiment un jeu très... très original, mais en même temps pas forcément très accessible, et ça fait débat depuis sa sortie. Il y a ceux qui disent qu'on s'ennuie, que c'est trop bavard, il y a des cinématiques qui sont très longues, que du coup il n'y a pas d'action dans le jeu. Pour eux, le créateur, c'est un japonais, il s'appelle Hideo Kojima. Faut savoir que c'est un peu un dieu dans le monde du jeu vidéo, il est adulé. D'accord. Eh bien, il y a des gens qui disent que cette fois il serait un peu trop fait plaisir, il a tout fait lui-même, il n'aura pas vraiment pensé aux joueurs. Et puis il y a ceux qui au contraire crient au génie, dans une industrie qui est très formatée maintenant. Chaque année, il y a Call of Duty, il y a FIFA, c'est toujours les mêmes jeux qui reviennent avec les mêmes formats. Death Stranding fait un peu figure d'OVNI, d'objet vidéoludique non identifié. C'est un peu un bol d'air frais.
Votre avis, Clément, c'est un jeu de génie ou c'est un jeu d'escroc?
Je suis un peu partagé. Moi, j'ai joué une bonne quinzaine d'heures, sachant qu'il en faut à peu près 40 pour finir le jeu. C'est clairement qu'il y a un jeu qui est unique en son genre. Moi, j'avais jamais joué à un jeu comme ça. C'est extrêmement original, avec des idées de mise en scène absolument époustouflantes. Mais il faut être honnête, je suis obligé de le dire, c'est pas un jeu qui est pour tout le monde. Il faut avoir la force déjà de pousser au-delà des 7-8 premières heures, qui sont une longue intro. Mais une fois qu'on en est arrivé là, on apprécie vraiment l'histoire, les mécaniques de jeu sont dingues. Et on s'amuse pas toujours sur Death Stranding, c'est pas un jeu qui est très drôle, il n'y a pas énormément d'action. Mais c'est un jeu qui ne laisse pas indifférent, on est marqué. Moi, je continue à y penser même quand j'y joue pas. Et c'est ce débat qui en fait, selon moi, une véritable œuvre d'art.
Bravo, Jeanne Chéral, un commentaire, ça vous a scié cette histoire.
Oui, oui. Je voulais juste savoir, les comédiens que vous avez cités au début, ils prêtent leur image et leur voix?
Oui, ou... c'est de la motion capture, c'est comme au cinéma. En fait, ils sont bardés de capteurs en studio, ils enregistrent toutes les scènes, etc.
Ah
comme
ouais, c'est si un vrai jeu d'acteur.
Absolument, ouais. Et donc ils sont 5 ou 6, ça a pris. Et les dialogues sont très longs, il y a des cinématiques qui durent parfois 10, 12 minutes. Hein, donc,
vous faisiez le parallèle, Clément, avec le cinéma. Le créateur qui pense trop à lui est passé aux joueurs. Ça me rappelle les cinéastes qui pensent trop à eux et passé aux spectateurs. Vous connaissez bien ça, Mathieu Charrier.
Joker.
Non mais vous avez la liste. Vous êtes fan de jeux vidéo? Sinon, Jeanne Chéral?
Non, pas du tout. Moi, je me suis arrêtée à Tetris.
Ouais. Ah oui, c'est pas de loin. Autre chose.
Et votre fils? Sur mon Atari.
Ouais. Et votre fils?
Il est encore trop petit.
Encore trop petit, c'est-à-dire qu'il va s'y mettre?
Bah, je crois que c'est inévitable aujourd'hui.
Celle qui va s'y mettre, sa tournée, c'est Jeanne Chéral. Vous restez avec nous, on en parle juste après ça.
Et dernière partie de Culture Média dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Suite et fin de Culture Média avec notre invitée Jeanne Chéral. Elle sera le 3 décembre sur la scène des Folies Bergères et en tournée à travers toute la France. On parle également de son nouvel album, L'An 40.
Vous sentez bien ici dans ce studio, Jeanne Chéral?
Plutôt bien,
vous
ouais.
Nous aussi, ouais, vous sentez vrai. Bien à Paris ou pas?
À Paris, ça dépend.
Ouais, ça dépend.
Oui, non.
Pourquoi je vous pose la question? Un extrait de la chanson Fausse Parisienne.
Fausse Parisienne, exilée de ta plaine, que fais-tu donc ici? Cette ville te malmène et te fout la migraine, toi l'enfant du pays. Loin des garennes, dans les voies souterraines, le jour comme la nuit. Tu manques d'oxygène, on te pousse, on te gêne, on te fait peur aussi. Fausse, fausse, fausse parisienne.
Et dans la chanson, on n'arrive pas à savoir si vous vous sentez bien ou pas bien à Paris.
Bah, c'est la réalité.
Ah oui,
on se sent bien et mal à Paris.
Ah oui, quand est-ce que vous vous sentez bien, quand est-ce que vous vous sentez mal?
Bah, je me sens bien parce que je suis toujours émerveillée par ma ville. Je suis pas du tout blasée. Hein.
Ouais.
Je me sens mal parce que Paris, c'est quand même une ville de plus en plus élitiste, quoi. Une ville qui se mérite. Ça devient très difficile de vivre à Paris. Enfin, ça devient de plus en plus cher, de plus en plus pollué, de plus en plus compliqué.
Ouais. Même pour des gens comme vous, même pour des artistes.
Bah oui, pour tout le monde. Enfin, à part, enfin, j'imagine, sauf à être richissime, vivre à Paris, c'est quand même c'est compliqué.
Il va y avoir une énorme tournée. Avec quelle orchestration? Dans certains morceaux de l'album, il y a deux pianos. Vous allez faire comment sur scène?
J'aurai deux pianos.
Mais vous allez avoir quatre mains, comme vous, qui va tenir?
Il y a
qui
un deuxième pianiste, bien sûr. Moi, j'aurai le gros piano. Enfin, j'ai commencé d'ailleurs. On a fait quatre concerts déjà.
Ouais.
On a commencé la tournée. Et il y a un piano à queue et un piano droit sur scène. Et c'est un vrai plaisir. C'est la première fois que j'embauche un pianiste.
Un vrai groupe, sinon.
Ouais.
Il n'y a pas juste deux pianos. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi la structure?
Deux pianos et basse batterie. C'est un groupe.
Quelques dates de la tournée, il y en a trop. Sinon, demain, vous serez à Rouen, après-demain à Guise, le 28 à Besançon, le 30 à Namur, le 3 décembre à Paris, on l'a dit, aux Folies Bergères. Il y aura ensuite Cherbourg, deux jours de suite, Nantes, votre ville, deux jours de suite. Et en janvier 2020, Bordeaux, Nevers, Lille, Bergerac, Saint-Nazaire et beaucoup, beaucoup d'autres villes. Le feu aux joues, cette chanson, quand même, il faut oser écrire une chanson pareille.
Bah oui, il faut oser.
Je ne vais pas dire les paroles, mais si vous lisez les paroles, dites-vous bien que tout est un sous-texte. Et
ouais.
C'est d'une... Pas d'une... Ah, je ne trouve pas le mot. Quand on se livre...
Confession, pas, une honnêteté peut-être.
Une honnêteté, une confession, on écoute quelques mesures. Ah, on l'a entendu, le feu aux joues, voilà. Je pensais que mon réalisateur m'a dit, si tu veux, j'ai un extrait du feu aux joues, et j'aurais été très content de le réentendre, mais c'est pas grave. Vous avez dit un jour, j'ai zéro tube, et c'est une chance, je n'ai aucune obligation en concert. Vous finissez avec quoi alors?
Une chance, j'ai dit ça pour faire la maline, hein, parce que
ah bon,
c'est quand même pas une chance. Mais bon, effectivement, je suis pas identifiée, enfin, je suis pas associée à une chanson qu'on me réclamerait tout le temps. C'est vrai, j'ai pas de tube.
Ouais.
Donc, soit j'en emprunte à quelqu'un d'autre, soit je prends le parti de jouer seulement mes non-tubes et ça se passe très bien quand même.
Prochain projet, vous êtes toujours dans des pas de côté, vous avez fait des choses pour les enfants. Qu'est-ce que vous allez faire après ça, après cette tournée, après ce disque? Vous savez déjà où vous allez vous laisser guider par le fil de la vie?
Ouais, je me laisse guider. Là, je suis tellement... c'est vraiment le démarrage de la tournée et je suis très très impliquée là, dans les concerts, je suis vraiment à fond là-dedans. Mais je fais vraiment confiance aux rencontres, aux envies du moment pour... Ouais, pour faire d'autres choses, comme vous dites, des pas de côté, ça me va assez bien.
C'est moi qui avais confondu, mea culpa. C'était pas le feu aux joues dont je voulais entendre quelques mesures, c'était l'an 40.
Ah d'accord.
Ces hanches qui roulent, facile, naturel. Y a-t-il un amour qui la hante ? C'est peut-être juste l'an 40.
L'an 40, c'était l'album de Jeanne Chéral, disponible partout. Elle est en tournée dans toute la France. Vous trouverez les dates sur Internet. Merci d'avoir été avec nous. Merci Clément Le Saffre. Merci Mathieu Charrier. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec Francis Le Tellier de France 3 et l'humoriste Mathieu Madénian. Salut Céline Dacosta. Je vous dis à toutes et tous à demain. Et merci encore d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Faites le savoir autour de vous.